Voilà, si on pouvait avoir un peu de silence. Merci, mon président m'a dit qu'il fallait respecter le timing. Monsieur le ministre, monsieur le préfet du Tarn, messieurs les sénateurs et monsieur le président sénateur du conseil départemental du Tarn, madame la conseillère régionale, mesdames, messieurs les conseillers régionaux, mesdames, messieurs les conseillers départementaux, monsieur le président de l'Association des maires du Tarn, chers élus, chers collègues, je suis très heureux d'être dans cette salle aujourd'hui à vos côtés et de vous accueillir ici à Grouillé. Pour la petite anecdote, ce forum avait été inauguré par vous, monsieur le ministre, le 24 février 1989. Ça ne vous rajeunit pas tout ça, monsieur le ministre, je suis désolé, mais moi aussi. Vous étiez alors secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur en charge des collectivités. Comme vous avez pu le constater en arrivant, votre nom est gravé dans le marbre à Grouillé et nous en sommes très fiers. Et je peux vous dire et vous assurer que cette salle remporte un vif succès. Nous étions là encore à 1h du matin hier soir, pour vous dire. C'est toujours un honneur pour un maire d'accueillir le congrès départemental dans sa commune. Le dernier congrès organisé en ces lieux remonte à 2010. L'Association des maires du Tarn, c'est une instance qui crée beaucoup de cohésion entre nous, au-delà des clivages politiques, géographiques, nord, sud du Tarn, est, ouest, au-delà de nos différences, territoires urbains ou ruraux, cités industrielles ou administratives, au-delà de nos histoires diverses et variées. J'en profite pour saluer le travail de notre président, Sylvain Fernandez, et son dévouement au sein de ce réseau qui nous tient à cœur. Je vais évoquer ici deux thèmes qui sont au cœur de nos préoccupations à ce jour. Le premier, je suis désolé, monsieur le ministre, mais la baisse des dotations, mais aussi l'intercommunalité. Tout d'abord, en matière de baisse des dotations de l'État, je ne peux que me réjouir, tout comme l'ensemble des maires, de votre bonne nouvelle annoncée par le président de la République au Congrès des maires. Une annonce que vous avez confirmée aux élus à Bordeaux en conclusion de la conférence économique des métropoles. Merci, monsieur le ministre, de nous avoir entendus. Pour autant, nous maintenons le cap pour soutenir et accompagner le redressement financier de la France. C'est bien à chacun d'entre nous d'innover et de construire des solutions pour contribuer à cet objectif. Ainsi, la ville de Grouillé a mis au point un plan d'effort partagé qui concerne tous les domaines d'intervention, les charges du personnel, les subventions aux associations, les indemnités des élus, les charges générales de nos collectivités. Nous faisons preuve de volontarisme, même si ces choix sont parfois, et vous le savez, difficiles à porter. Nous prenons nos responsabilités à cœur. Nous avons conscience qu'une gestion saine et rigoureuse est la seule condition d'une poursuite de nos investissements. Le maintien de nos capacités d'investissement est décisif pour l'avenir, pour bâtir demain et penser aux générations futures. Le gouvernement a su nous faire confiance aux maires pour accompagner son ambition de redressement du pays. Je pense que nous n'avons pas démérité. Et aujourd'hui, nous entamons un nouveau chantier. Repenser nos territoires, nous unir pour nous rendre plus forts. J'aborde ainsi ma deuxième partie, la coopération locale et l'intercommunalité. Ce vaste projet unifie nos territoires et crée des ponts entre les communes, notamment rurales et urbaines. C'est un territoire fort, organisé et solidaire que nous impulsons à l'ouest du Tarn. Ainsi, avec mon confrère gaillacois, Patrice Gosserand, et les présidents des intercommunalités, nous travaillons désormais à la construction et à l'articulation de notre nouveau territoire qui réunit 3 intercommunalités. Le conseil municipal de Grouillé a été parmi les premiers du territoire à délibérer favorablement sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale proposé par M. le préfet. En effet, ce schéma est conforme à ce que j'ai toujours défendu au sein de mon conseil municipal. Un territoire fort, un territoire mieux organisé, un territoire solidaire. Pour autant, et je tiens à le souligner, les communes doivent rester les cellules de base de notre démocratie. Tous les maires de toutes les communes du territoire seront associés à ces démarches et à ce projet. Les maires seront les moteurs de ce projet de fusion des intercommunalités. Maires du territoire de Tarn et d'Adou, de Vergrésigne et Pays Salvagnacois, du Rabastinois, élus des petites communes, élus de Gaillac, de Grouillé, nous travaillons ensemble au quotidien. Nous assumons cette responsabilité forte avec modestie, parce que ce n'est pas simple, mais nous avançons avec conviction d'œuvrer pour l'avenir du territoire. Nos villes, nos communes, nos intercommunalités représentent l'avenir, un formidable creuset de compétences, de savoir-faire et de talent. Et je ne peux m'empêcher, en parlant de talent, je ne peux m'empêcher de vous inviter tous à Grouillé le 9 juillet. Nos artistes locaux, les plasticiens volants, nous dévoilent leur spectacle déambulatoire « Little Nemo » avant de s'envoler pour Rio. En effet, ces artistes grouillétois vont participer à la cérémonie officielle d'ouverture des Jeux olympiques outre-Atlantique. Et tout ça, c'est la création qui se fait à Grouillé. Et nous sommes fiers d'être représentés à Rio par nos plasticiens volants. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mes chers collègues, mes chers amis, vive Grouillé, vive les communes du Tarn et allez, vive la République. Merci de m'avoir écouté. J'ai respecté les 6 minutes, hein, Président. Hein
bon. Merci, Claude. Bien, Monsieur le ministre, Monsieur le préfet, Madame et Messieurs les parlementaires, Messieurs les élus, Messieurs les représentants des divers corps de l'État, Mesdames et Messieurs, chers collègues, tout d'abord, Monsieur le ministre, en préambule, permettez-moi de vous remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Nous étions connus dans d'autres circonstances, puisque vous avez eu, vous également, je dirais, la charge des élus de Tarn-et-Garonne à l'époque. Bien. Monsieur le ministre, dans l'édito du dernier compte rendu du comité interministériel aux ruralités, le président de la République déclarait, je cite, « La ruralité est une chance pour la France et un formidable terrain d'innovation. L'égalité des territoires suppose que chaque citoyen, où qu'il réside dans l'espace national, puisse accéder aux services essentiels et que chaque entreprise artisanale, commerciale et industrielle puisse disposer de tous les moyens pour développer ses activités. Une chance pour la France, c'est pourquoi, Monsieur le ministre, le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Ruralité et des Collectivités Territoriales a vu le jour en début d'année 2016. Ce ministère fonctionne sous votre égide, Monsieur le ministre, et le décret du 3 mars 2016 relatif à vos attributions précise qu'il vous appartient de mettre en œuvre la politique du gouvernement en faveur de l'aménagement du territoire et de la ruralité, de concourir à la cohésion économique et sociale des territoires, qu'il vous appartient également de veiller à ce que chaque territoire dispose de moyens, des moyens de surmonter ses fragilités et de développer son potentiel en fonction de ses spécificités au service de l'égalité entre les citoyens et entre les territoires, et de veiller encore à la mise en valeur des territoires ruraux. La ruralité est donc une chance pour la France, et nombreux sont ceux qui, aux côtés des élus ruraux, se font le défenseur de cette idée. Si on prend la peine, en effet, de regarder le panorama de notre territoire national, on s'aperçoit que plusieurs millions de Français vivent aujourd'hui en dehors des grosses agglomérations, soit par choix, soit par nécessité. Certains ont fui le stress, le bruit, la pollution et les contraintes de la vie urbaine. D'autres, victimes de la crise économique, ont recherché un cadre de vie moins onéreux. Il ne fait pas de doute que depuis 1990, les campagnes françaises ont gagné des habitants dans presque toutes les régions de France. Cette mutation démographique a mis fin à plus d'un siècle d'exode rural. Les communes rurales périphériques des grosses agglomérations ont attiré une population importante. Aujourd'hui, la campagne française est loin d'être homogène. Mettant fin à une vieille dichotomie ville-campagne, l'ADATAR a distingué trois Frances rurales. Les territoires à dominante résidentielle en périphérie des villes, les campagnes à dominante agricole et les espaces multifonctionnels dotés de ressources patrimoniales importantes et attractives. De telle manière qu'il est plus juste de parler aujourd'hui de ruralité au pluriel que de la ruralité. Cet afflux de néo-ruraux, ou encore appelé périurbains, a remodelé le paysage, dans la mesure où ces nouveaux venus, qui sont d'anciens urbains, ont amené dans leurs valises de nouvelles attentes et de nouveaux besoins que les élus locaux ont été mis au défi de satisfaire dans l'intérêt de leur territoire. Les assises de la ruralité auxquelles j'ai fait référence ont décliné 21 nouvelles mesures destinées à accompagner les habitants au quotidien. Santé, numérique, mobilité, logement, mais également destinées à accompagner les territoires. Investissement local, DGF, simplification des normes, éducation, services publics. Mais ces assises ont également confirmé des données connues à l'issue des précédentes études sur les territoires ruraux qui ont mis en évidence la disparition programmée des services publics en milieu rural. N'oublions pas la révision générale des politiques publiques, la fameuse RGPP, qui a consisté à chercher des économies dans le budget de l'État et qui a provoqué un vif émoi au sein des populations directement concernées par les différentes fermetures de services publics, au premier rang desquels la santé, l'école, la poste, la gendarmerie ou la perception, qu'on appelle maintenant trésorerie. La disparition de ces services, et en tout cas leur très sensible réduction, a fortement pénalisé les plus démunis des territoires ruraux. De sorte que les élus en charge de ces territoires ont dû faire preuve d'ingéniosité en mutualisant les services. Ainsi, la création de maisons des services publics, afin d'offrir une offre humanisée, les regroupements pédagogiques ou encore les réseaux d'écoles. Je précise à cet égard qu'en matière de réseau d'école, le département du Tarn a été parmi les premiers à mettre en place de tels réseaux dans les années 1990. Actuellement, on compte 16 réseaux d'écoles ruraux, correspondant à 102 écoles, 278 classes et 6250 élèves. Dans le tissu des services publics en milieu rural, l'offre de santé est sans doute celle qui reflète le plus l'idée de cadre de vie. Accueillir de jeunes médecins est devenu un défi pour certains territoires ruraux. Et les élus locaux n'ont de cesse d'imaginer toujours plus de solutions pour maintenir un tissu médical minimum. Actuellement, de nombreuses maisons de santé pluridisciplinaires ont vu le jour, entre autres à la Cône dès 2009, et sont encore en projet, même si elles sont encore insuffisantes. Les élus locaux ne renoncent jamais, même si leurs initiatives se trouvent parfois paralysées par le déficit de remplacement des médecins partant à la retraite. En ce qui concerne l'école, le Tarn, comme les autres départements, n'a pas été à l'abri des réductions de postes, avec des conséquences plus durement ressenties dans les territoires ruraux en raison de l'effet de seuil. Qui veut que la moindre suppression de postes en milieu rural peut entraîner la fermeture d'une école tout entière? Or, la conservation d'une école représente pour les élus ruraux un objectif politique majeur, en ce sens que l'école participe du dynamisme d'une population et donc d'une commune. Je fais un aparté pour remercier Madame la directrice de l'Éducation nationale, avec qui nous avions bien travaillé, en évitant effectivement qu'il y ait des répercussions trop néfastes sur l'ensemble de notre territoire tarné. Donc les élus défendent l'école quand car ils ont bien conscience qu'elle constitue l'un des derniers services présents et qu'elle reste le point d'ancrage de la vie communale en dehors de la mairie, bien évidemment. Que dire de la poste à laquelle les Français restent très attachés et qu'ils perçoivent comme un service de proximité ? À l'instar des enseignants, les personnels de la poste sont pour les habitants des territoires ruraux des figures populaires du service public. En ne répondant qu'à des critères économiques et comptables, la fermeture des bureaux de poste a donc été particulièrement mal vécue, tant par les élus que par les habitants. Je pense que notre président sénateur Thierry Carcenac, avec qui nous travaillons avec la poste, pourrait, dans ce chapitre-là, évoquer fortement certains engagements non tenus. Enfin, on ne peut passer sous silence les questions liées aux technologies de l'informatique et de la communication, les TIC. Car les habitants des zones rurales sont de plus en plus demandeurs d'une offre de qualité. Le rôle du numérique dans l'aménagement du territoire est indéniable. La mise en place de téléguichets a suscité à la fois de l'enthousiasme, mais également des craintes. Crainte, effectivement, de voir le téléguichet devenir davantage un instrument de déménagement du territoire qu'un instrument d'aménagement, du fait du remplacement progressif de la présence physique à le service public par des permanences virtuelles. Les assises en réalité, à n'en point douter, expriment la volonté de préserver des zones rurales et de mettre un terme à des décisions de fermetures arbitraires et non concertées, même si cette volonté se heurte au coût du maintien du service public en zone rurale, difficilement supportable en temps de restrictions budgétaires. Le premier obstacle auquel se heurte la réussite de ce projet est sans aucun doute à chercher prioritairement dans les ressources de plus en plus contraintes allouées aux collectivités territoriales. En effet, comme en 2014 et 2015, la dotation forfaitaire pour les communes et la dotation d'intercommunalité pour les EPCI ont une fois de plus été ponctionnées de la contribution au redressement des finances publiques et elles subiront une dernière baisse encore en 2017. Mais, Monsieur le Ministre, je sais que là-dessus, vous allez amener quelques précisions. Certes, comme vous l'avez pu tous l'entendre en clôture du 99e congrès des maires, le président de la République a annoncé la réduction de moitié de la baisse des dotations au bloc communal en 2017. Elles ne seront plus que 2 milliards d'euros au lieu des 2 initialement prévus. Ainsi, sur la période 2014-2017, les concours financiers de l'État vont diminuer de 11,5 milliards d'euros, soit une baisse cumulée de 27 milliards d'euros, dont 14,7 milliards d'euros, 56%, pour le seul bloc communal. Le mouvement de baisse des dotations et le transfert unilatéral de dépenses par l'État conduit un nombre de plus en plus important de collectivités au bord du déséquilibre budgétaire, dont notamment les communes rurales, où les ressources sont par nature très limitées. Après 10 milliards de baisses des investissements depuis 2013, le bloc communal est contraint de réduire les services à la population, d'augmenter les tarifs ou encore de limiter à nouveau les investissements locaux. L'État baisse ses dotations, mais au même moment, il augmente ses exigences. Réforme des rythmes scolaires, dépenses nouvelles devenues obligatoires, travaux liés aux normes d'accessibilité, à la charge des communes. Demander à une commune qui a peu de moyens de faire des économies n'est ni logique ni efficace. Dans les villages, on compte en moyenne un agent municipal pour 200 habitants. Les maires, en règle générale, en moyenne, pardon, sont payés 600 euros brut mensuels et leur premier adjoint de 100 euros, le reste du conseil est bénévole. Vous le savez tous autant que moi. Difficile, a priori, de faire moins coûteux. Dans les grandes villes de France, il y a 4 fois plus de personnel municipal par habitant. La baisse des dotations de l'État est donc plus dommageable dans les petites communes que dans les grandes. Alors, Monsieur le Ministre, je vous le demande devant cette Assemblée, que compte faire le gouvernement pour aider et sauvegarder ces communes rurales alors que tout les pousse à disparaître ? Mais parlons maintenant de la péréquation. Je sais qu'il y a des spécialistes dans la salle. Comme vous le savez, la péréquation a pour objectif de réduire les écarts de richesse fiscale entre les collectivités territoriales. Elle apparaît donc comme une nécessité si l'on ne veut pas voir se creuser de façon exagérée l'écart entre les collectivités riches, qui peuvent offrir un haut niveau de service public à leurs citoyens et collectivités pauvres qui ne le peuvent pas. Le dispositif français actuel combine donc une péréquation verticale de l'État vers les collectivités territoriales et une péréquation horizontale entre les collectivités elles-mêmes, des plus riches vers les plus pauvres. La DGF constitue une ressource financière primordiale pour les collectivités territoriales, avec une enveloppe de 33,22 milliards d'euros en 2016, cote 36,6 milliards en 2015, dont 19,2 milliards pour le bloc communal, correspondant à une baisse de 8,6 milliards par rapport à 2015, elle représente en moyenne 20% de leurs recettes réelles de fonctionnement. Mais jusqu'à quand, monsieur le ministre? Je me pose la question. Nous nous posons la question. Pensez-vous réellement que cette baisse de la contribution du bloc communal en 2017 apportera un nouveau souffle à nos communes et intercommunalités? Je suis pour le moins dubitatif. Or, cette dotation est aujourd'hui perçue par la quasi-totalité des élus comme un financement inéquitable et opaque. 10 ans après la dernière réforme d'ampleur, la DGF n'a toujours pas été mise en cohérence avec les évolutions notables qu'ont connues les collectivités. Réforme de la taxe professionnelle, réforme territoriale, etc. Aujourd'hui, la multiplicité des dotations et la diversité des critères font que la DGF pâtit d'une architecture peu lisible, une répartition, comme j'ai dit, inéquitable, qui ne correspond plus à la réalité des charges de fonctionnement des collectivités et des modes de gestion locaux, notamment en milieu rural. Quant au fonds de péréquation horizontale, tenant compte du contexte de baisse massive des dotations et pour faire en sorte que la hausse du FPIC soit soutenable pour les communes et les EPSI, contributeurs, le législateur a décidé d'étaler sur 2 ans la hausse supplémentaire du FPIC. La loi des finances fixe donne le montant du FPIC à 1 milliard d'euros en 2017 et prévoit que ces ressources s'élèveront à 2% des recettes fiscales des communes et des EPSI à compter 2017. Par ailleurs, la loi des finances a enfin mis en place un dispositif d'exonération de contribution au FPIC au profit des communes les plus défavorisées, à savoir celles qui bénéficiaient de la péréquation cible. Voici un exemple type de l'incohérence de la péréquation. On verse d'un côté, on prélève de l'autre. Enfin, s'agissant du seuil d'effort fiscal pour être bénéficiaire du FPIC, il était de 0,9% en 2015, 1% en 2016, combien en 2017? En 2016, dans le Tarn compte 3 EPSI contributeurs au FPIC contre 16 bénéficiaires, dont certains ont vu leur prélèvement doublé et d'autres leur versement fortement diminué. À ce rythme-là, combien d'EPSI et de communes vont pouvoir supporter à la fois la baisse des dotations et cette montée en puissance du FPIC? Quel est l'avenir des communes rurales dans ce contexte de restrictions budgétaires? À ce jour, le département du Tarn compte 320 communes, dont 29 dites urbaines et 291 dites rurales, soit 91% du territoire. Parmi les 320 communes, 78 sont classées en zone de montagne, soit environ un quart des communes du département. Concernant les dotations, là aussi, les chiffres parlent par eux-mêmes. Seulement 2% des communes du Tarn perçoivent de la dotation de solidarité urbaine contre 98% de dotation de solidarité rurale. Qui pourrait donc douter du caractère rural de notre département? Par ailleurs, un état des lieux de l'ADSR révèle que 99% des communes concernées touchent de la fraction péréquation, soit la quasi-totalité des communes concernées. 17% sont en plus éligibles à la fraction bourg-centre, c'est-à-dire les communes rurales qui jouent un rôle centre en milieu rural, comme par exemple les chefs-lieux de canton. Enfin, on peut également noter que parmi les communes éligibles à la DSR dans le département du Tarn, 50% sont en plus éligibles à la fraction cible, soit 158 communes, soit quasiment la moitié des communes du département. Concrètement, cela correspond aux communes les plus défavorisées et les plus fragiles du département classées par rapport à la moyenne nationale. Ceci en fonction du potentiel fiscal par habitant, du revenu par habitant et de la population. Monsieur le ministre, avec toutes ces péréquations cumulées, peut-on en conclure que le département du Tarn et donc un département particulièrement pauvre ou défavorisé. L'efficacité des dotations de péréquation est complètement entravée par cet effet de saupoudrage. Comme dans notre département, 98% des communes de métropole bénéficient d'une ou plusieurs dotations de péréquation. Par ailleurs, des différences de traitement significatives entre les communes, pourtant comparables, sont constatées en raison des effets de seuil, résultant d'une architecture trop complexe et de modalités spécifiques de répartition entre ces dotations de péréquation. Les écarts entre les communes riches et les communes pauvres, y compris urbaines, ne peuvent perdurer plus longtemps. Les élus locaux ne veulent plus cautionner les injustices à l'attribution des dotations. Même dans notre département rural, des élus au sein de même EPCI de taille quasi équivalente se voient attribuer une DGF par habitant qui va du simple au double sans aucune explication. Sans doute nous parlerez-vous de la réforme de la DGF dont les associations regrettent fortement qu'elle ait été reportée à 2017, mais on va y revenir. Pour répondre aux inquiétudes des maires, le président de la République a annoncé au Congrès qu'un texte de loi spécifique à la réforme de la DGF serait présenté afin d'en corriger les défauts, et je crois savoir ce projet de loi, vous êtes chargé de l'élaborer, monsieur le ministre. Voilà enfin une revendication des associations d'élus, enfin entendue. En réalité, la loi des finances propose deux réformes à la DGF, l'architecture de la dotation forfaitaire des communes et des intercommunalités et la réforme des trois dotations de péréquation, DSU, DSR et DNP. La dotation forfaitaire rénovée sera répartie selon trois critères. La population, avec enfin un montant unique par habitant, le rôle de ville-centre dans l'EPCI et surtout la notion de sous-densité attribuée à certaines communes pour compenser les charges de ruralité. Enfin, j'en termine sur la péréquation, l'objectif est de recentrer les dotations en limitant le nombre des communes éligibles et de lisser les effets de seuil. Alors, selon la Direction générale des communautés locales, cette réforme permettra d'accroître le montant de la DGF, ou du moins d'atténuer la baisse des dotations pour 72% des communes. Eh bien, nous attendons de voir. Au regard des premières simulations, il apparaît que ce sont les petites communes et les communes rurales qui sortiraient gagnantes de cette réforme au détriment des grandes villes. D'après la société d'expertise Simco, si le projet est mené à son terme, alors l'objectif d'une réduction des inégalités historiques de la DGS serait enfin atteint. Toujours d'après les premières simulations, cette réforme profiterait donc essentiellement aux communes rurales, mais notamment à celles les plus étalées et ayant un poids fort dans leur communauté. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer cet objectif, sachant que les simulations sur l'impact de la réforme n'ont été réalisées que sur une année, l'État indiquant par ailleurs que la dernière commune intégrerait le dispositif d'ici 46 ans. Au regard de toutes les difficultés budgétaires que rencontrent nos territoires ruraux, pour leur avenir et pour parvenir à une réforme de qualité, il est indispensable que chaque commune et chaque EPCI dispose de simulations pluriannuelles, notamment à l'échelle des nouveaux périmètres. Le deuxième obstacle auquel sort également la réussite de ce projet résulte, selon moi, dans la nouvelle organisation territoriale qui se dessine en ce moment même, et qui résulte de la loi NOTRe. Comment ne pas s'étonner en effet qu'à côté de ce projet en faveur des territoires ruraux, un autre projet ait été mené pour diluer la légitimité des communes dans des intercommunalités toujours plus grandes, aux compétences toujours plus étendues, au point de faire perdre aux maires et aux élus leurs dernières compétences que sont l'urbanisme et l'éducation. Comment imaginer en effet à la fois des communes plus vivantes, offrant plus de services à leurs administrés, sans cette proximité que constitue pour eux la commune et ses représentants? Alors que la loi NOTRe a prévu comme limite basse le seuil démographique de 15 000 habitants, tous les élus, dans le Tarn comme ailleurs, ont bien constaté que les schémas proposés par les préfets ont promis des intercommunalités beaucoup plus vastes. Sans nier la nécessité de se regrouper et de mutualiser, force est de constater que les chiffres ont de quoi faire craindre une disparition programmée des communes au profit des intercommunalités. 479 EPCI sont concernés par les projets de fusion à 50 communes et plus, D'où serait issu 136 projets d'EPSI de taille XXL, peut-on lire dans le courrier des maires et des élus locaux de janvier 2016. Par ailleurs, la question reste quand même de savoir si les bénéfices attendus de cette nouvelle organisation territoriale seront au rendez-vous en termes économiques, de gestion simplifiée ou encore d'amélioration du cadre de vie. Savoir également si cette logique du toujours plus grand ne portera pas en définitive un coup fatal à la démocratie locale, aux identités locales, telles qu'elles s'expriment dans nos communes rurales notamment. Comme j'ai déjà eu à entreprise l'occasion de le dire en Assemblée générale notamment, n'oublions pas que ce dont il est question et qu'il convient avant tout de préserver, c'est la qualité de vie de nos concitoyens. Je ne doute pas que vous ayez à cœur d'y veiller, Monsieur le Ministre, si j'en crois vos différentes interventions, notamment la semaine dernière lors du Congrès des maires de France, à l'occasion duquel les élus ont prôné, plus que l'égalité des territoires, l'égalité des chances. En réponse à leur question, vous avez évoqué la nécessité d'une stabilité institutionnelle et financière pour les années à venir et avez renouvelé, parmi les grandes priorités de votre ministère, la promesse d'un développement des maisons de services publics dans l'ensemble du territoire. L'offre de santé et la fin des déserts médicaux avaient comme corollaire une modulation du numerus clausus dans certaines zones, enfin la téléphonie mobile et la couverture de l'ensemble du territoire fin 2016 en 2G et d'ici juin 2017 en 3G. Parce que la France demain ne passe pas par les métropoles, j'en terminerai en faisant miel les mots de mon collègue Pierre Joly, président de la communauté de communes des Grands Lacs du Morvan, lorsqu'il a évoqué les nouvelles ruralités comme les nouvelles réalités qui nous appartiennent de faire vivre, d'imaginer et même de rêver. Je vous remercie. Passe à la parole à M. Thierry Cassenac, sénateur président du Conseil départemental.
Monsieur le ministre, cher Jean-Michel, Monsieur le préfet, Monsieur le sénateur, Madame la députée, Monsieur le sénateur, pardon, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux et régionaux, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, enfin, vous tous, chers amis. Monsieur le Président, cher Sylvain, je te remercie pour ton invitation à intervenir ici à Groyer devant le Congrès des maires du Tarn. Vous connaissez ma fidélité à ce rendez-vous, même si l'an dernier c'était Claudie Bonnet qui m'avait représenté, à travers ma personne, celle du département à l'Association des maires du Tarn et à l'initiative de cette rencontre annuelle. Une association utile, forte et mobilisée, avec laquelle le département, d'année en année, nous, par convention renouvelée, une relation de confiance. Hier, la commission permanente a renouvelé à l'unanimité son appui financier en votant la subvention attendue, Monsieur le Président, sans la baisser. Donc, quand je regarde le budget, nous sommes à peu près à 50% de participation sur le budget. Voilà une association qui doit être félicitée pour son travail et pour son engagement. Elle soutient les élus qui, chaque jour, s'investissent sans compter pour pouvoir répondre aux besoins de nos concitoyens et aux enjeux de leur territoire. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est un sujet qui est au cœur de la politique d'aménagement du territoire du département. Dans un contexte de métropolisation active, de réformes territoriales, d'avancées technologiques, de phénomènes de réurbanisation et d'exigences accrues de la part de nos concitoyens en termes de services publics, alors que les finances se raréfient, la question de la ruralité est effectivement posée. Pour la collectivité départementale que je préside, elle se pose depuis longtemps. Le département en a pris la mesure très tôt, en agissant dans le cadre de ses compétences. On se souvient du travail de Jean-Marc Pastor dans le cadre des espaces 2000. Parfois même en dépassant le champ strict de nos compétences. Je pense en disant cela aux aides départementales pour l'investissement des communes avec le Fonds de développement territorial, les contrats à Tout-Tarn ou encore le FAVIL qui sera maintenu dans ses montants pour l'aide à la voirie communale. Nous avons toujours pensé en effet que pour accompagner les mutations de la ruralité, il ne fallait pas opposer le rural et l'urbain, mais défendre plutôt la notion d'équilibre et d'interdépendance entre les deux. Je me félicite, Monsieur le Ministre, que l'ensemble des collectivités qui aménagent le territoire se retrouvent aujourd'hui dans un même ministère. C'est bien le signe de ne pas vouloir opposer les territoires entre eux, mais bien de les considérer à égalité comme faisant partie d'un tout. Nous sommes des élus de terrain et nous avons tous pu observer que la ruralité avait évolué en devenant au fil des années un espace multi-usage, un espace productif agricole certes, et je salue Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture, mais pas seulement. L'attractivité des territoires ruraux, avec notamment un foncier moins cher, amène des entreprises à venir s'y installer. Dans le Tarn, nous avons les exemples d'une grande entreprise installée sur les coteaux de Morin-Scopon. J'ai vu arriver Monsieur le maire. Nous avons des fromageries du Pic dans l'ancienne gare de Peine, ou encore un ancien tunnel reconverti en cave à fromage. Je pense également à Trifil, Monsieur le Président, non loin de Groyer, qui nous accueille donc aujourd'hui. L'espace rural, c'est aussi de plus en plus un espace résidentiel pour des personnes qui travaillent en ville. C'est enfin un espace naturel où l'on vient se détendre, faire du tourisme, se ressourcer. Au cœur de notre politique d'accompagnement de la ruralité, que nous avons voulu transversale, dynamique, durable, mais surtout, vous le savez, concertée avec les élus, il nous est très tôt apparu nécessaire, en effet, d'anticiper ces évolutions en investissant notre solidarité dans ces trois espaces de manière équilibrée, l'espace productif, l'espace résidentiel et l'espace naturel. Dans l'espace productif, nous agissons en matière de politique agricole et agroalimentaire, mais aussi du développement économique. La loi NOTRe va nous obliger à repenser tout cela en partenariat avec la région. Nous étions à Narbonne il y a 2 jours et nous avons commencé à évoquer ces différents points, Madame la présentante de Carole Delga, mais encore en direction du développement touristique et du déploiement du numérique avec la mise en œuvre du schéma directeur territorial d'aménagement numérique du Tarn. Le numérique, compétence transférée par les communes aux EPCI, est un enjeu majeur d'aménagement du territoire qui répond à l'évolution des besoins de la population en matière d'éducation, de santé, d'accès aux services publics. Un espace productif, donc, avec des enjeux économiques doublés d'enjeux sociaux, avec en perspective l'emploi et l'insertion. Nous passerons devant le Fonds de solidarité numérique pour savoir quelle va être la dotation du département dans quelques jours, puisque c'est le 16 de ce mois que je vais présenter cela au Fonds de solidarité numérique. Et donc derrière, nous pourrons retravailler avec les EPCI sur l'implication et la participation de chacun d'entre vous, avec celle de la région qui a été renforcée et dont les critères ont été précisés. Et je crois que c'est très intéressant. Dans l'espace résidentiel, et l'amélioration du cadre de vie également, avec des actions pour le vivre ensemble, qui touchent au transport et à la mobilité, aux infrastructures routières, à la téléphonie mobile. Et vous savez, en termes de mobilité, les préoccupations que nous avons avec le transfert des compétences. En matière d'infrastructures routières, les préoccupations sur les grands itinéraires nationaux et notamment la liaison Toulouse-Castres-Mazamet, mais également l'impact et le choix, dans le cadre de la loi NOTRe, de la possibilité d'avoir des itinéraires d'intérêt régionaux qui nous permettront de mieux relier notre région. Je pense également aux maisons du département, puisque nous avons fait le choix d'être présents sur les territoires, mais aussi aux maisons de santé, aux maisons de services au public créées dans les zones rurales ou urbaines éloignées, qu'elles soient assurées par les collectivités ou par la Poste. Il s'agit ici pour nous de permettre à chacun de pouvoir partout sur le territoire vivre, grandir, se cultiver, faire du sport, travailler, bien vieillir à domicile ou en établissement. Puis ensuite, dans l'espace naturel, enfin, où nos actions en matière de politique environnementale et de développement durable sont très nombreuses et nous aurons un peu de temps pour nous y adapter. La loi GEMAPI, et elle, donne un peu plus de temps pour s'adapter. Pour accompagner cette politique de dynamisation de nos territoires ruraux, le département a toujours fait du soutien à l'investissement des communes de ses priorités avec l'action sociale. La loi NOTRe, votée en 2015, conforte le rôle du département comme chef de file en matière de solidarité humaine et territoriale. Et donc, nous voyons bien que c'est une très bonne chose qui nous permettra d'être présents sur le territoire. La loi NOTRe prévoit notamment un schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services publics élaborée conjointement par l'État et le département en associant les EPCI à fiscalité propre. Nous y travaillons déjà avec M. le Préfet et ses services. Et M. Chiaro, qui vous représente, M. le Préfet, est aux premières loges sur ces dossiers. Concrètement, le schéma permettra d'améliorer l'accès aux soins médicaux, aux services des opérateurs nationaux, la Poste, Pôle emploi, la CAF, la CNAM, la CNAVE, à la garde d'enfants, etc. Un moyen de mieux connaître l'offre existante et les attentes des citoyens pour devancer les besoins et proposer des réponses innovantes en encourageant les mutualisations. Voilà qui va dans le bon sens, celui du maintien des services essentiels à la population. En ce qui concerne les services de l'État et leur présence sur les territoires, gendarmerie, direction départementale des finances publiques, école, j'aurais préféré une approche qui soit moins verticale, c'est-à-dire ministère par ministère, et donc moins compartimentée, pour une approche plus horizontale. J'espère que le schéma, Monsieur le Préfet, nous permettra d'aborder cela de façon plus harmonieuse pour la présence de l'État sur le territoire. Parallèlement à la préparation de ce schéma, le département réfléchit aussi à d'autres moyens pour lever les handicaps qui pèsent encore en zone rurale. Même si ce n'est pas de notre compétence, la santé, nous sommes tous préoccupés, vous, maire, et nous-mêmes, sur la présence des médecins généralistes, des pharmacies sur nos territoires. Et donc, il convient de réfléchir en relation avec l'ARS, l'université et les médecins généralistes aux moyens incitatifs à imaginer pour répondre aux besoins de la population en matière de santé. Vous faites des maisons de santé et parfois, on a de la difficulté à trouver des jeunes étudiants pour venir s'implanter sur nos territoires. Et donc, on a une vraie problématique là-dessus. C'est une de nos préoccupations. Je sais que vous la partagez. Et elle concerne donc ces déserts médicaux. Des territoires entiers se trouvent aujourd'hui dépourvus d'offres en matière de soins, en milieu rural comme en milieu périurbain ou urbain. Là, il n'y a pas de différence. À l'approche de la retraite, certains généralistes ont des difficultés pour trouver de nouveaux médecins prêts à reprendre leur cabinet et parfois certains ferment leurs portes définitivement, obligeant ainsi les populations à faire plusieurs dizaines de kilomètres pour trouver un pôle de santé. Que la loi NOTRe conforte le rôle des départements comme de chef de file en matière de solidarité humaine et territoriale, je le répète, est une très bonne chose que nous allons mettre en œuvre avec les EPCI notamment. Mais le département voit dans le même temps son périmètre d'action limité. Ses moyens et capacités financières sont par ailleurs fortement contraints avec l'effet ciseau que l'on connaît, c'est-à-dire des recettes qui augmentent moins vite que les dépenses, et notamment les dépenses sociales. Des discussions ont lieu actuellement entre l'État et les départements concernant notamment le financement pérenne du RSA. Pour le Tarn, pour vous donner une idée, le reste à charge était déjà de 7,4 millions d'euros en 2011, donc 7,4 millions d'euros. Il est passé à 24,6 millions d'euros en 2015, le reste à charge. Et si nous devions augmenter les impôts, je vous rappelle qu'un point de pression fiscale sur la taxe foncière sur la propriété bâtie, c'est 1 million d'euros. Donc il faudrait augmenter très fortement. J'ai entendu dans la campagne qui vient de se terminer des cantonales qui s'étaient terminées, des cantonales au niveau du département, que chacun souhaitait que l'on fasse moins d'efforts et moins d'augmentation des impôts. Et puis, j'ai regardé ce qui s'était passé une année après. Et j'ai vu certains départements augmenter les impôts très fortement. Le département du Tarn a fait le choix depuis 2010 de ne pas augmenter les taux des impôts. Donc, ça nous amène à beaucoup travailler, à beaucoup réfléchir et à passer beaucoup de temps. Je rappelle que seuls les gouvernements de messieurs Hérault et Valls ont répondu à nos difficultés. Je connais votre engagement personnel, monsieur le ministre, sur ce dossier, et je sais que vous mesurez les attentes qui sont très grandes. Vous êtes un fervent départementaliste, et je ne doute pas de votre détermination pour que ce dossier aboutisse et que l'État nous apporte dès cette année une aide exceptionnelle au regard du reste à charge constaté et assure pour l'avenir la prise en charge du financement du RSA, qui est une allocation, je le répète, de solidarité nationale. Cependant, la loi NOTRe et les contraintes financières conduisent à réinterroger, réorienter, redéfinir et mutualiser les politiques et les actions développées par le département. Pour autant, notre collectivité dispose toujours de compétences d'action pour continuer d'accompagner les territoires et leurs habitants. Je pense notamment à son rôle primordial dans le domaine de l'ingénierie en direction des plus petites communes ou des EPCI, qui, compte tenu des compétences, souhaitent une mutualisation dans l'élaboration de leurs projets. Je pense notamment aux infrastructures routières et aux moyens dont disposent les départements, ou aux moyens mis à l'œuvre en matière d'eau et d'assainissement avec le SATES et nos services. Et je pense que là-dessus, la réflexion actuellement du département va évoluer et permettre peut-être de mettre en œuvre certaines des mutualisations qui sont demandées par pas mal d'élus qui font appel de façon déjà indirecte à nos services. Différents modes de collaboration nouveaux entre les acteurs publics locaux ont été prévus par la loi et seront donc explorés. Sachez que nous réfléchissons déjà au partenariat que nous pourrons avoir avec vous demain, puisque à la session du Conseil départemental qui aura lieu ce mois-ci, certains sujets sont déjà abordés. Soyez assurés que le département mettra tout en œuvre pour continuer de répondre à vos attentes en matière d'aménagement équilibré et solidaire des territoires. Le département poursuivra avec vous ses relations de contractualisation sans fragiliser pour autant votre autonomie de gestion. La Constitution est là. Monsieur le ministre est attendu sur les relations de l'État avec les collectivités locales. J'ai entendu le président le signaler à l'instant. Le Congrès des maires a permis au président de la République et à vous-même de faire des annonces que vous allez nous préciser. Ce sont d'excellentes nouvelles pour les communes et les intercommunalités, compte tenu de tout ce qu'on nous prédisait. Je parlais d'équité un peu plus tôt. C'est pourquoi je ne doute pas qu'au-delà de l'appui que vous allez apporter aux communes, les départements bénéficieront aussi d'un soutien de l'État afin de préserver la cohésion sociale après l'aménagement territorial. Je vous remercie et je vous souhaite la parole maintenant. Et je donne la parole à la représentante de la région.
Merci Thierry. Monsieur le ministre, madame et messieurs les parlementaires, monsieur le président de l'Association des maires, mesdames et messieurs les élus, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser notre présidente, Carole Delga, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais que j'ai l'honneur de représenter. Et j'en profite pour saluer mes collègues élus, conseillers régionaux, Cathy Pinol, Bernard Gilabert, Vincent Garel, qui sont présents ce matin à nos côtés. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, en présence de vous, monsieur le ministre. Ce rendez-vous qu'est ce congrès départemental des maires, c'est un moment important pour nous tous. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler, quelques courtes minutes, je te le promets, Sylvain, de notre nouvelle grande région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Soyons francs, je sais que notre région, cette nouvelle région, eh bien, ça a été, qui compte maintenant 13 départements, 5,6 millions d'habitants, a fait naître beaucoup de questionnements de votre part, vous les élus, voire des inquiétudes, et c'est tout à fait légitime. Ce matin, ce que je voudrais vous dire, eh bien, c'est quelle est l'ambition de notre présidente Carole Delga pour notre nouvelle région, dont la majorité de la population est rurale. Et surtout, qu'est-ce que nous vous proposons pour essayer de répondre au mieux à vos attentes et, bien sûr, à vos questions. L'ambition de notre présidente, ce sont avant tout des valeurs. Mais c'est aussi une méthode. Les valeurs, vous les connaissez et elles sont essentielles. Et il faut sans cesse les réaffirmer. Ces valeurs, ce sont bien sûr les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, laïcité, des valeurs démocratiques, mais aussi des valeurs de solidarité, de justice sociale, et ce qui nous concerne aujourd'hui en parlant de ruralité, de justice territoriale. La méthode, elle est très simple. Deux principes, l'action et la proximité. Bien sûr que fusionner deux régions en une seule est un énorme défi, et vous connaissez ce type de problématique chacun à nos échelles. C'est un défi technique, réel, un défi politique, mais aussi un défi démocratique pour l'ensemble de nos concitoyens. Pour autant, et c'était l'engagement de notre présidente, 2016 ne pouvait pas, ne devait pas être une année blanche. Notre collectivité, qui est la région, elle est dans l'action, et ce, depuis le début du mandat. Et c'est le premier principe de la méthode de Carole Delga, l'action. L'action, notre action politique en marche depuis le 4 janvier, date de l'élection de la présidente. Notre action, ce sont des priorités politiques. L'éducation, la formation, l'emploi, avec une mobilisation au profit du développement économique sur tous les territoires. Un engagement fort pour un aménagement équilibré, durable et solidaire de notre région. Et enfin, renforcer la solidarité et préserver le lien social. Le temps imparti ne me permet pas, bien sûr, de développer toutes nos priorités politiques. Alors, je voudrais juste évoquer avec vous quelques engagements qui ont été pris et qui sont tenus dès ce budget 2016. D'abord, et ça a été évoqué, un plan de relance du bâtiment et des travaux publics avec un budget de 880 millions d'euros, 500 millions d'euros en maîtrise d'ouvrage région et 380 millions d'euros de soutien aux investissements des territoires. Ce secteur économique en a besoin, nos territoires en ont besoin, priorité à l'investissement. Nous avons aussi augmenté significativement nos crédits en faveur de l'agriculture en créant notamment un fonds pour faire face à la crise agricole. La région est aux côtés de ce secteur très important, est aux côtés des agriculteurs. Dans ce budget 2016, un plan très haut débit a aussi été programmé, abondé de 165 millions d'euros. Là aussi, ça a été évoqué, nous sommes aux côtés de l'État et des collectivités pour résoudre la fracture numérique qui est aussi une fracture territoriale. Une politique aussi plus spécifique de la montagne va voir le jour au niveau régional. La santé demeure une de nos priorités, bien sûr. Après le soutien aux maisons pluridisciplinaires de santé, nous élargissons notre intervention dès cette année 2016 à d'autres modèles comme les centres de santé pour lutter contre la désertification médicale à vos côtés. Je voudrais aussi vous dire que les engagements qui avaient été tenus avant ce 1er janvier 2016, notamment pris par le président Malvy durant le mandat précédent autour de toutes les politiques contractuelles avec la région que vous pouvez connaître, bien entendu, ces engagements-là seront tenus. Et de nouvelles politiques territoriales vont vous être proposées à la fin de l'année 2016, pour une mise en application 2017, notamment en priorité sur les centres-bourgs, où je sais vous avez tous beaucoup, beaucoup de projets et donc de besoins. De la même façon, le Fonds régional d'intervention, le FRI, que vous êtes nombreux ici à connaître, bien sûr, poursuit son action à vos côtés. Je pourrais encore vous parler, bien sûr, de logement, de culture, de sport, de vie associative, qui sont des sujets très importants et sur lesquels la région est présente. Mais je voudrais prendre les quelques dernières minutes pour vous parler du deuxième principe qui guide la méthode de notre présidente, la proximité. Alors, quelles sont nos propositions pour relever ce défi de la proximité dans cette grande région de 5,6 millions d'habitants ? Eh bien, nous vous en faisons notamment deux propositions. D'abord, amplifier la concertation avec vous, élus, avec les territoires. Nous vous proposons et nous allons écrire à l'ensemble des présidents d'intercommunalités pour leur proposer la démarche de créer une assemblée des territoires. Nous vous proposons que chaque intercommunalité ait plusieurs représentants. Et les objectifs à poursuivre, eh bien, ils sont notamment mieux représenter la ruralité de notre région au sein des politiques régionales. Nous voulons pouvoir vous consulter régulièrement sur nos politiques, mieux les évaluer ensemble et surtout poursuivre la construction, la co-construction de ces politiques pour pouvoir au mieux répondre à vos besoins. Nous souhaitons que cette instance consultative se réunisse dès l'automne. Deuxième proposition pour plus de proximité, une maison de la région. Dans les départements qui ne sont pas métropolitains, donc c'est le cas du département du Tarn, eh bien nous allons créer une maison de la région, un lieu où vous pourrez rencontrer élus et techniciens. Plus besoin d'aller à Toulouse ou à Montpellier. La région, elle a besoin d'être au plus proche des porteurs de projets, que ce soit vous, élus, mais aussi chef d'entreprise ou tout citoyen qui a des projets à porter. Ce lieu est sa vie. Parce que c'est important, se fera en concertation étroite, bien sûr, avec le département. Et cette maison devrait ouvrir durant le premier semestre 2017. Assemblée des territoires, maison de la région, et puis vous le savez, la proximité, c'est aussi une façon d'être. Un engagement personnel d'élu que vous faites, que nous aussi, en tant que conseillers régionaux, eh bien, nous souhaitons mettre en œuvre. Nous ne répondrons aux enjeux de notre grande région qu'ensemble et au plus près de nos concitoyens. Action, proximité, au service de priorités politiques fortes. Mais bien sûr, au cœur de nos priorités, les ressources des régions sont bien entendu des paramètres essentiels. Et notre présidente Carole Delga a fait de nombreuses propositions au gouvernement, notamment sur la réforme de la DGF. Je sais que le défi est grand, qu'il sera souvent difficile, comme le quotidien de l'élu, on en a l'habitude. Mais j'ai confiance, nous devons avoir confiance dans notre capacité collective à relever ce défi de la grande région, parce que nos territoires sont la richesse de la République, nos territoires sont la richesse de la démocratie, parce que nos territoires sont la richesse de notre grande région. Merci à tous.
Bien, je passe la parole à Monsieur le ministre. Monsieur Baillet.
Monsieur le Président, merci. Et merci de m'avoir convié à votre congrès des maires du Tarn. J'y viens avec plaisir, car, et c'est toujours heureux, je ne suis pas loin de mes bases. J'y viens avec plaisir parce que le Tarn et le Tarn-et-Garonne se ressemblent beaucoup, non seulement quant à la sociologie, à la géographie, mais aussi quant à la représentativité des élus. J'y viens avec un plaisir encore renforcé, puisque même si cela était un peu sorti de ma mémoire, je constate qu'il y a un quart de siècle, j'étais parmi vous, pour inaugurer à vos côtés, monsieur le maire, et je vous salue, vous étiez à ce moment-là maire adjoint, moi secrétaire d'État chargé des collectivités territoriales auprès de Pierre Joxe, pour inaugurer cette superbe salle, ce forum qui, si j'ai bien compris, sous un baptême républicain tel que le nôtre, remporte un succès incontesté. Alors, c'est vrai, nous avions l'un et l'autre un peu plus de cheveux, un peu moins de rides, mais je vous retrouve quand même avec beaucoup de plaisir, et je veux saluer le préfet du Tarn, qui m'accompagne, et au travers de lui, tous les services de l'État qui sont présents, colonel de gendarmerie. Je veux saluer, bien entendu, les élus, au premier rang desquels vous, monsieur le président, qui m'avez fait l'amitié de me convier, mais aussi nos députés, madame Gourjal, Philippe Folliot, nos sénateurs, Thierry Carcenac, par ailleurs président du conseil départemental, le sénateur Bonnecarrère, que je salue également et que je vois là-bas dans la salle, vous, madame la conseillère régionale, et l'ensemble des conseillers régionaux, Jean-Marc Pastor, avec lequel nous avons tellement siégé au Sénat, et avec lequel nous partageons une passion non dissimulée pour l'Amérique latine en général et l'Argentine, en particulier, moi, à tel point d'ailleurs que mon fils a épousé une Argentine et que mon deuxième fils est aussi amoureux d'une Argentine. Alors, tu vois que quand on donne le cœur à ma famille, on ne le donne pas à moitié. Et puis, vous toutes et vous tous, les Sagarel, mes amis radicaux, et même mon ancien sous-préfet que je retrouve ici, qui est désormais un des vôtres puisqu'il est élu du Tarn. Mesdames et messieurs les maires du Tarn, merci. C'est un moment heureux de dialogue. J'apprécie et j'aime ces rencontres dans nos départements de Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, dont nous allons bientôt, puisque c'est compris le scrutin clos, connaître l'appellation et le label officiel. Oui, c'est un bonheur que de venir à votre rencontre, que de vous entendre, je vous ai bien écouté, et que de répondre à vos questions. Si j'ai bien compris les différentes interventions, toutes de qualité, parfois, comme vous, monsieur le président, d'une technicité qui, par moment, m'a sidéré de la part d'un président d'association d'élus, mais m'a sidéré de la bonne manière, de par vos connaissances et vos capacités à analyser. Je vais un peu reprendre l'architecture que fut la vôtre et répondre en deux parties. La première sur les finances du bloc communal et tenter de vous rassurer. Et la seconde sur l'aménagement du territoire et la ruralité. Ça tombe bien, puisque c'est exactement le découpage de mon propre ministère. Lorsque le la République, François Hollande, a fait l'honneur de m'appeler pour me proposer un gouvernement sur un ministère tel que celui-là, nous avons beaucoup discuté et j'ai souhaité ce découpage-là. Parce que la DATAR, qui a œuvré, et bien œuvré, mais qui aujourd'hui avait, enfin, qui avait des méthodes qui aujourd'hui ne seraient plus tout à fait celles que nous acceptons à l'heure de la décentralisation, la DATAR a vécu et bien vécu, et donc, pour aménager le territoire de manière efficace et convenable, il faut le faire naturellement avec les élus locaux. D'où cette volonté de relier sous un seul ministère les collectivités dans leur diversité, régions, départements, communes, intercommunalités, et la ruralité, le périurbain et l'urbain, le ministère de la ville quant à lui, s'occupant des quartiers en difficulté et de l'ANRU. J'ai, oui, tenu à ce qu'il en soit ainsi, parce que je crois qu'il est temps d'arrêter d'opposer ruralité et urbain. Chacun a sa vocation, chacun a ses problèmes, et ils sont nombreux chez les uns et chez les autres, nous y reviendrons. Mais chacun doit vivre le territoire de la meilleure des manières, car sur chacun de ces territoires vivent nos concitoyens. Donc oui, il y a des vocations métropolitaines, il y a des vocations chef-lieu, il y a le périurbain qui s'est construit d'une manière ou d'une autre, parfois avec une véritable vision urbanistique et de développement, parfois malheureusement un peu livré aux promoteurs immobiliers et à leur facétie. Et puis il y a la ruralité que vous avez pris comme thème de ce congrès et qui est, je vous le confirme, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, une des priorités de l'action gouvernementale. Vous l'avez évoqué, j'en parlerai aussi dans un instant. Monsieur le Président, vous m'avez fait l'honneur de me citer lorsque, au Congrès des maires, j'ai dit que dès mon arrivée dans ce ministère, j'ai annoncé que je ne chercherai pas à accrocher mon nom à une loi ou même, avec une autre appellation, à bâtir une loi NOTRe supplémentaire et que le maître mot de mon action à la tête de ce ministère était stabilité, la stabilité institutionnelle, car on a quand même beaucoup bougé les choses depuis quelques années en ce qui concerne les collectivités, et il est temps maintenant de bien digérer tout cela et de le mettre en place dans la sérénité et la tranquillité, la stabilité financière, le commentaire est le même, on a beaucoup bougé les choses, et c'est vrai, on a beaucoup demandé aux collectivités qui ont répondu présent. En effet, en 2012, je cite le Premier ministre du dernier gouvernement de la majorité précédente, il disait « La France est en faillite ». François Fillon qui ne passe pas pour un excité et encore moins un fantaisiste. Et il est vrai que nous étions dans une situation avec 2 000 milliards de dettes extrêmement préoccupantes et que si nous ne voulions pas subir le sort de la Grèce, de l'Espagne ou de quelques autres pays européens, il était en 2010 quand même, le déficit public était de 7,5% du PIB. En 2012, il était encore de 5,5%. Vous savez que les règles européennes, c'est à 3. Il fallait avoir le courage et la volonté de prendre des décisions courageuses. Et lorsque les décisions sont courageuses, elles ne sont pas toujours populaires. Le président de la République l'a souhaité, le Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault, aussi. Et nous avons donc mis en place un pacte de redressement des finances publiques qui demandait naturellement à l'État de donner l'exemple et il l'a fait. Ô combien le préfet pourrait en témoigner quant aux efforts qui ont été faits par l'État pour rationaliser son fonctionnement et réaliser des économies. Et naturellement, les collectivités territoriales ont été appelées à participer à cet effort de 50 milliards pour redresser les finances publiques, ce que nul ne contestait, car nous savions bien que dans le cas contraire, nous allions droit dans le mur et à des situations catastrophiques pour l'ensemble de nos concitoyens. Ce pacte de redressement avait été annoncé sur 3 ans, à hauteur de 3,7 milliards pour l'ensemble des collectivités et de 2,1 milliards pour le bloc communal. Nous en sommes à la troisième année de ce pacte de redressement quand le président de la République, considérant que finalement les efforts que nous avons faits les uns et les autres commençaient à porter leurs fruits. Alors moi je ne suis pas venu faire un discours politique, beaucoup me connaissent ici, je ne suis pas quelqu'un qui cherche la polémique, je préfère par goût personnel et que par goût politique cultiver les convergences plutôt que les divergences. Je me contente donc simplement d'énoncer des réalités. Les réalités, elles sont que les choses commencent à s'améliorer, puisque pour la première fois, la courbe du chômage est en train de s'inverser, que la croissance est supérieure à ce qui était attendu, on attendait 0,5, elle est de 1,5, que la consommation reprend, que nous avons effectivement à 3,2% stabilisé les finances publiques, et donc le président de la République qui s'était engagé à se rendre au congrès des maires de France et qui avait écouté les demandes des maires de France, et vous les avez rappelées les uns les autres, qui étaient de dire « lissons la troisième année d'effort qui nous est demandé parce que nous sommes pris en ciseaux entre les dotations qui baissent, j'y viendrai, et entre les efforts qu'on nous demande. » Alors la première marche, on a mis un peu de l'ordre dans notre fonctionnement. C'était peut-être souhaitable finalement chez les uns et les autres, et je me mets dans le lot. Donc ça n'a pas été très compliqué. La seconde année, c'était plus difficile. La troisième année, c'est vrai, parce que quand on monte un escalier, on est toujours plus essoufflé en haut qu'en bas. C'était encore beaucoup plus difficile. Et donc, le président de la République a entendu cette demande de l'Association des maires de France, mais de l'ensemble des associations d'élus, et a accepté, pour le bloc communal, de ramener l'effort de 2017, non, de le ramener de 2,1 milliards à 1 milliard, c'est-à-dire de 50%, c'est donc 1 milliard qui restera dans les finances des collectivités et qui permettront quand même à beaucoup de reprendre l'investissement qu'ils avaient, il faut le reconnaître, un peu mis en berne, ce qui était d'ailleurs catastrophique en termes de conséquences pour l'économie locale, quand on sait que les collectivités, c'est 70% de l'investissement public. Donc, 1 milliard au lieu de 2,1 milliards, je crois que c'est une bonne nouvelle, d'autant plus qu'il l'a accompagné d'un certain nombre d'autres nouvelles, et en particulier, il a là aussi entendu les associations d'élus qui, depuis bien longtemps, demandaient que, aux côtés du projet de loi de finances et au projet de loi de finances sécurité sociale, il y ait un projet de loi de finances collectivité, considérant que maintenant la décentralisation a quand même plus de 30 ans et qu'il est temps que les collectivités aient leur projet de loi de finances indépendant et non pas globalisé dans le projet de loi de finances de l'État. Ce sera le cas à partir de 2018. Oh, vous dire que Bercy a poussé des hurlements de joie lors de cette annonce, ce serait mentir, mais je pense que c'est une bonne chose, parce que désormais, je le dis sous le contrôle de Thierry Carcenac, qui connaît remarquablement les finances publiques, eh bien, nous allons avoir notre propre projet de loi que nous pourrons construire au Parlement et dont nous aurons la maîtrise et la connaissance absolue, sans nous référer obligatoirement aux responsables de cette belle maison qu'est Bercy. Ils sont tous très compétents, mais ils ont quand même une tendance à avoir une approche des finances locales qui n'est pas forcément la nôtre. Et dans le cadre de ce projet de loi de finances collectivité en 2018, sera, Monsieur le Président, menée la réforme de la DGF. Je vais m'y attarder un peu. Vous avez raison, la DGF, qui date de 1979, est totalement inéquitable. Vous avez raison de souligner que parfois deux communes, exactement jumelles pratiquement, même nombre d'habitants, même problématique, même longueur de chemin, même, eh bien, entre l'une et l'autre, il y a un écart de 1 à 3 concernant la DGF. Donc, il faut rendre la DGF plus équitable, il faut la rendre plus lisible. Je m'y suis attelé dès mon arrivée, puisque déjà, cette réforme aurait dû être portée dans le projet de loi de finances cette année. Elle a été remise d'un an par le Premier ministre. J'ai donc rencontré l'ensemble des associations d'élus. J'ai donc rencontré les groupes parlementaires qui se sont auto-saisis, ce qui est un événement tout à fait rare au Parlement, puisque s'est constitué à l'Assemblée nationale un groupe de députés de droite et de gauche confondus avec la commission des finances pour travailler sur le sujet. Et puis la même chose s'est faite au Sénat. Et puis les deux groupes ont fusionné. Et là, je suis face à des experts beaucoup plus compétents que moi, individuellement, ne parlons pas collectivement. Sauf que quand je parle, et les associations d'élus, quand je parle avec ces experts parlementaires et qui, eux, auront à voter la réforme, eh bien, je me rends compte que tout le monde est d'accord pour réformer. Mais dès que l'on rentre dans le détail pour savoir quelle réforme et comment on l'amène, là, plus personne n'est d'accord. Parce que les petites villes veulent qu'elles soient favorables aux petites villes, parce que les métropoles le veulent pour les métropoles. Les maires ruraux, que vous avez beaucoup cités, et qui sont un lobby tout à fait actif, disent il faut que ce soit la ruralité qui l'emporte. Les maires de banlieue disaient la banlieue, c'est terrible, elle a nos problèmes. Donc il va bien falloir arriver à trouver là aussi un consensus. On ne peut réformer les dotations de l'État en direction des collectivités dans la violence ou en passant en force. Vous savez suffisamment reproché qu'à un moment, ces réformes ont été un peu menées, disons pour être aimable, tambour battant. Je ne rentrerai pas dans cette approche et dans cette manière de voir les choses. Donc je suis très heureux que le président de la République ait considéré qu'il fallait remettre cet ouvrage à 2018 dans le cadre de la loi de finances collectivité, parce que, entre nous, vous savez que je ne tiens pas la langue de bois, c'est quand même plus logique et peut-être plus cohérent et en même temps plus facile pour le ministre qui sera en charge d'affaires en 2018 de réformer les dotations en début de quinquennat qu'en fin de quinquennat. Voilà donc une annonce tout à fait importante et qui va aussi dans le sens que vous souhaitez. Mais le président de la République ne s'en est pas tenu là, puisqu'il a annoncé que la DETR augmenterait encore cette année de 200 millions d'euros supplémentaires, mais elle avait déjà augmenté de 200 millions l'an dernier et de 200 millions l'année avant. Ce qui fait quand même qu'en 3 ans, la DETR, en faveur des communes rurales, elle porte bien son nom, dotation d'équipement des communes rurales, déconcentrée sous l'autorité des préfets, donc en proximité avec vous, a augmenté de plus de 60%. 61,8% exactement. Ça, c'est, monsieur le Président, de non seulement un geste, mais la reconnaissance de la nécessité pour l'État d'accompagner plus haut et plus fort les communes rurales. Et nous l'avons fait. Et nous l'avons fait d'autant plus que le fonds de solidarité à l'investissement local qui est géré par mon ministère et que Sylvia Pinel, qui m'a précédé à la ruralité, avait voulu déconcentrer, et j'ai confirmé cette déconcentration, parce que je sais bien que c'est assez à la mode au niveau de l'État de lancer des appels à projets. Sauf que les appels à projets, c'est des procédures longues, sophistiquées, très complexes et qui nécessitent beaucoup d'ingénierie territoriale que non plus, en tout cas de moins en moins, les petites communes. Tandis que quand nous déconcentrons auprès des préfets, qui déconcentrent à leur tour auprès de leurs sous-préfets, nous sommes dans la proximité. Vous êtes avec des femmes et des hommes avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Et les choses fonctionnent bien. Ce fonds qui avait été créé l'an dernier, qui est aussi de 1 milliard, parce que la DETR, désormais, elle est 1 milliard, et là, nous avions 1 milliard, eh bien, le président de la République a voulu le monter à 1 milliard 200 millions, 600 millions pour la ruralité, 600 millions d'euros pour l'investissement, et dans les 600 millions pour la ruralité, j'en reparlerai tout à l'heure, nous financerons les contrats de ruralité. Ça, là encore, nous avons la reconnaissance de la priorité de l'action gouvernementale en direction de la ruralité et des communes rurales. J'en suis très satisfait. Je pense que vous l'êtes aussi. L'État est de retour auprès des collectivités en général et il est de retour encore davantage et en priorité auprès des communes rurales. Enfin, le président de la République a annoncé la réforme du FCTVA. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, parce que je n'ai pas les compétences et la qualité de votre président pour aller aussi précisément, mais le FCTVA, j'entends depuis que je suis élu, et ça fait très longtemps, que ce système est complexe, qu'il coûte beaucoup d'argent parce que nous sommes obligés d'y mettre beaucoup de collaborateurs, eh bien, il va être simplifié, et là aussi, nous avons annoncé la réforme attendue, et enfin d'ailleurs, je vous le confirme, la Caisse des dépôts et consignations procédera également à l'avance TVA comme l'année dernière, c'est quand même un montant de 800 millions d'euros. Je m'en arrête là pour les problèmes de fiscalité, mais voyez quand même que quand je dis que la ruralité est une de nos priorités, nous nous adressons en tout premier lieu aux communes rurales. Et nous adressons non seulement aux communes rurales, mais globalement à l'ensemble de la ruralité, puisque alors qu'aucun comité d'aménagement du territoire ne s'était réuni entre 2010 et 2014, depuis 2014, en même pas 18 mois, nous avons réuni 3 comités interministériels ruralité, 2 lorsque Sylvia Pinel était ministre de la ruralité, ils ont arrêté 67 mesures, un troisième très récemment à Privas, nous avons arrêté 37 mesures supplémentaires, ce qui porte quand même à 104 mesures en moins d'un an et demi les décisions qui ont été prises en faveur de la ruralité. La ruralité, alors naturellement, je ne vais pas, parce que là on va y passer la journée, vous déclinez les 104 mesures, et puis à ce moment-là, il aurait fallu que j'aie un discours écrit, et puis je pense qu'au fur et à mesure, vous auriez été lassés, mais je vais quand même essayer de globaliser en prenant dans l'ordre, ça a été d'ailleurs largement évoqué, les problèmes principaux qui se posent à la ruralité et aux communes rurales. Le premier d'entre eux, c'est le service public. Vous l'avez évoqué, vous avez raison. Sauf que ça fait 30 ans qu'on l'évoque, que ce soit la droite ou la gauche qui soit en responsabilité. Sans jamais, au-delà des complaintes que nous avons tous menées dans cette salle, y compris les élus nationaux, sans jamais apporter de solution, si ce n'est le constat que les services publics foutent le camp. Eh bien, nous avons, nous et c'est notre fierté, apporté une réponse avec les maisons de services au public qui sont financées par mon ministère, parfois en partenariat avec la Poste. Elles seront 1 000 à la fin de l'année, comme nous étions engagés. Je sais qu'il y en a dans le temps qui fonctionnent déjà. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont en construction, qu'il y a des projets. Nous allons continuer, bien naturellement, l'année prochaine. Ces maisons de services au public ont toujours les services publics fondamentaux. Thierry Carcenac les a évoqués, Pôle emploi, la CARSAT, la MSA et bien d'autres. Et puis au-delà, il y a, selon la maison de services au public, eh bien, parfois même, j'ai trouvé dans l'une d'entre elles des infirmières libérales de soins à domicile qui s'étaient positionnées là. Dans une autre, à Lot-et-Garonne, il y a même une annexe du tribunal, etc., etc. J'en ai inauguré une dans les Alpes de Haute-Provence, derrière le tunnel du Chambon. Alors, je cite le tunnel du Chambon, vous allez dire, pourquoi il nous parle de ça? On ne sait pas où c'est. Si ça doit vous dire quelque chose, c'est le tunnel qui s'est effondré et qui a laissé une vallée complètement paralysée pendant des semaines et des semaines. Eh bien, il y a là 31 services publics dans un des endroits les plus reculés de France. Donc, oui, nous avons trouvé la solution pour ramener le service public dans les zones de montagne, dans les territoires les plus enclavés, dans l'ensemble des territoires ruraux. Et nous le faisons souvent, et je vous le recommande vraiment, en partenariat avec la Poste, qui est très intéressée par tout cela. Alors, du coup, c'est elle qui finance. Et surtout, ça vous garantit la présence postale, évoquée aussi dans les discours, parce qu'à partir du moment où vous installez dans la Poste une maison de service au public, ça vous garantit la pérennité de la présence postale. Il mutualise le fonctionnement avec l'ensemble des participants à la maison de service au public. Et à Privas, nous avons, à le prix en Val, annoncé que désormais, il y aurait des facteurs guichetiers, ce qui est là encore un moyen de conforter la présence postale, puisque c'est quoi des facteurs guichetiers? Eh bien, c'est les hommes et les femmes qui, le matin, sont facteurs et l'après-midi tiennent ouvert le guichet de la Poste. Vous voyez, nous essayons, et c'est pour cela que nous réussissons chaque fois de trouver les solutions pratiques. Nous savons bien que nous ne reconstruirons pas les services publics tels qu'ils étaient autrefois, mais il y a désormais, et à la satisfaction générale, les services publics dans les zones rurales, y compris les plus enclavées. Le deuxième grand défi qui se pose à la ruralité, il a été évoqué aussi, c'est les maisons de santé. Parce que l'offre de soins de proximité est en train de disparaître, parce que les médecins rechignent à s'installer dans les zones rurales. Nous avons là aussi pris ce sujet à bras le corps, puisque nous avons, même chiffre, l'objectif de 1 000 maisons de santé, et nous l'atteindrons à la fin de l'année, et il y en a aussi dans le Tarn, que pour encourager les jeunes médecins à venir s'installer dans ces lieux, nous avons passé 1 700 contrats avec des jeunes étudiants en médecine, dont nous finançons les études et qui s'engagent à venir s'installer dans ces zones. Et s'ils ne le font pas, ils doivent rembourser leurs études. Marisol Touraine, qui cofinance avec mon ministère, a, vous l'avez vu, et c'était une très ancienne demande, jamais honorée, a accepté de desserrer dans ces zones le numerus clausus qui permettra d'installer davantage de médecins. Là encore, nous avons répondu à une véritable problématique qui est l'offre de santé de proximité, l'offre de soins de proximité. Mais moi, je tiens à dire, parce que, au nom de la clarté et la vérité que j'évoquais tout à l'heure, que la problématique n'est pas liée qu'aux équipements que peuvent offrir les collectivités. Elle est aussi liée au mode de vie des médecins. Autrefois, nous le savons tous, nous avions dans nos zones rurales le médecin de famille, 10 médecins de campagne, qui restaient là 360 jours par an, et quand il partait 8 jours, 10 jours, pas plus, il prenait un remplaçant qu'il finançait lui-même et qui était disponible 24 heures sur 24, qui connaissait d'ailleurs l'ensemble de la population, à tel point qu'il finissait souvent maire ou conseil général, voire davantage. Aujourd'hui, les jeunes médecins ne veulent pas cette vie. Moi, j'ai beaucoup de discussions avec eux. Ils nous disent, c'est très bien ce que vous faites, on est d'accord, mais nous, parce que nos femmes l'exigent et parce que nous, c'est notre manière de voir la vie désormais, nous ne voulons plus être taillables et corvéables 24 heures sur 24 tout au long de l'année. C'est une réalité. Nous avons, là aussi, trouvé la réponse et je le crois, la bonne réponse quand je vois la rapidité avec laquelle ces maisons de santé s'installent sur l'ensemble du territoire. Et elles sont pluriprofessionnelles parce que partant des médecins, nous avons aussi désormais des kinés, des infirmières, des dentistes, c'est-à-dire l'ensemble de l'offre de soins. La troisième problématique et la quatrième sont liées. Elles ont été évoquées et très bien par Thierry Carcenac qui connaît parfaitement tout cela. C'est la téléphonie mobile. Reconnaissons qu'à l'époque où on a vendu les fréquences aux opérateurs, l'État a beaucoup discuté sur le montant, parce que, comme toujours, il avait besoin d'argent, mais ne s'est pas beaucoup préoccupé en 2004 de fixer un cahier des charges qui aurait obligé les 10 opérateurs à couvrir l'ensemble du territoire. On n'a eu à ce moment-là aucune politique d'approche d'aménagement du territoire. Il n'y avait d'ailleurs pas de ministère d'aménagement du territoire dans ces années-là. Donc, on fait les opérateurs, ils ont payé cher, mais ils sont allés là où ils allaient avoir le meilleur retour sur investissement. Ils sont donc allés dans les secteurs urbains et très denses, abandonnant complètement les secteurs moins denses, ruralité, montagne, secteurs fragiles. Donc, nous sommes en train de rattraper tout cela dans un bras de fer dont vous n'imaginez pas la violence que nous menons avec Emmanuel Macron et les grands opérateurs qui ne connaissent, eux, vraiment, alors que ce rapport de force, nous les avons même menacés de revenir là-dessus et de légiférer, parce que nous savons très bien que si nous venons avec un texte de loi au Parlement, là, il n'y aura plus de clivage droite-gauche. Tout le monde sera d'accord pour le voter, pour contraindre les opérateurs. Comme ils commencent à sentir le vent du boulet, ils font des efforts. L'ensemble du territoire sera couvert en 2G d'ici la fin de l'année, en 3G d'ici juin 2017. Et vous avez vu que le président d'Orange vient d'annoncer il y a deux jours que la 4G, ce ne sera pas pour 2022, mais pour 2019, parce que la pression commence à porter ses fruits et il est indispensable que l'on puisse effectivement avoir la téléphonie mobile sur l'ensemble du territoire. Mais la téléphonie mobile, c'est aussi poser le problème, d'ailleurs j'ai été étonné qu'il ne soit pas trop, des zones blanches et des zones grises, parce que la manière dont l'ARCEP mène les mesures, c'est 300 mètres autour de la mairie, à 4 mètres de hauteur, on vous dit vous n'êtes pas en zone blanche, alors que personne ne peut téléphoner, et ça, nos concitoyens ne le comprennent pas. Donc, nous sommes en train de discuter à l'ARCEP, là aussi, en leur mettant la pression, pour modifier cela. Et enfin, le très haut débit et le haut débit, bien naturellement, aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans le haut débit, on ne peut pas vivre sans le numérique et sans être relié. D'abord, parce que c'est devenu un outil de communication ordinaire et normal. Ensuite, parce que désormais, bon, moi dans mon ancien métier, ça ne me faisait pas plaisir, mais la mode et l'information sont largement aux réseaux sociaux, et je vous salue, messieurs, et au-delà, tout est dématérialisé. La DGFiP dématérialise. Il ferait mieux de garder les trésoreries ouvertes, mais elle dématérialise. Le Crédit Agricole dématérialise. La MSA dématérialise. Enfin, tout le monde dématérialise. Donc, comment vivre si on n'est pas suffisamment couvert? Ici, vous avez la chance, avec votre président du conseil départemental, d'avoir quelqu'un qui a anticipé et donc d'avoir des équipements qui sont déjà plutôt en avance sur d'autres, et j'ai bien entendu les rendez-vous futurs. Mais là encore, nous avons dans le plan France très haut débit, qui est de 20 milliards d'euros, mis 3 milliards d'euros. Nous finançons les pylônes à 100% dans les zones les plus fragiles. C'est un plan de 30 millions d'euros. Nous avons décidé d'ouvrir de manière prioritaire un certain nombre de sites touristiques fragiles ou autres. Mais là encore, la problématique de base est la même. Quand tout cela a été négocié à l'opérateur, on n'a pas mené une politique d'aménagement du territoire et nous sommes en train de rattraper le temps perdu. Nous pouvons nous en satisfaire. Puisque j'ai parlé du comité interministériel ruralité, je veux quand même préciser une ou deux décisions supplémentaires qui ont été prises, et en particulier une, et c'est pour cela que j'ai parlé des trésoreries, mais nous pouvons parler de l'ensemble des services publics, tellement je sais que c'est sensible au cœur de nos concitoyens et des élus. Vous êtes en train, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président, à la demande de mon ministère, de construire le schéma départemental d'accessibilité aux services publics. Et je vois bien sûr une incohérence à ce que, dans cette période-là, on ferme des services publics. On ne peut pas demander aux élus, aux citoyens, de travailler pour dire « Voilà le réseau de services publics que nous souhaitons, nous comprenons bien qu'il faut faire des efforts au nom des principes de redressement des comptes publics que j'ai énoncés. Nous comprenons bien que les choses ne sont plus qu'avant. Nous comprenons bien que le numérique a changé les choses. Mais tout de même, quelle incohérence à fermer des services publics alors qu'on est en train de construire ce schéma. Donc, désormais, les préfets ont un droit d'alerte auprès du Premier ministre et de moi-même. Si vous considérez que, quelle que soit l'administration, elle est en train de fermer un service public alors que ce n'est pas souhaitable, vous nous saisissez et nous arbitrerons, parce qu'on ne peut pas ne pas mettre en harmonie ces actes avec ces discours, avec ces propos, et c'est ce que nous avons bien naturellement réalisé et mis en place. Je veux revenir d'un mot sur le FSIL, dont j'ai dit que le président de la République l'avait porté à 1,2 milliard, puisque c'est avec ces crédits importants quand même, 1,2 milliard, ça n'est pas rien, que nous gérons la ruralité, et c'est dans les 600 millions de ruralité que nous ferons les contrats de ruralité. Vous savez qu'il y avait des contrats de ville, et là encore la ruralité disait, mais nous, nous sommes les oubliés. Nous avons, lors du dernier comité interministériel à Privas, décidé de la création de contrats de ruralité qui seront financés, comme je viens de l'évoquer, qui seront déconcentrés, comme le FSIL, auprès des préfets. J'ai demandé à chaque préfet de nommer un référent ruralité, généralement un sous-préfet ou le secrétaire général de la préfecture. Ce référent ruralité, il doit constituer autour de lui une équipe avec le président de l'association des maires, les parlementaires et un certain nombre, le président de la Chambre d'agriculture et un certain nombre de personnes pour bien regarder que les mesures qui sont prises soient connues et mises en place, car je m'étais rendu compte quand je suis arrivé que les 67 mesures des dossiers précédents, elles étaient largement inconnues et que l'information n'était pas redescendue. Désormais, il y a un référent ruralité par département qui est chargé, sous ma responsabilité, naturellement, celle de son préfet, de mener ces actions. Je vais d'ailleurs très bientôt les réunir au ministère pour contrôler l'avancement de tout cela, parce que, là encore, je le répète, il ne suffit pas de dire, encore faut-il faire, et si possible, bien faire. Voyez, mesdames et messieurs les maires, que votre message a été entendu, que nous sommes à votre écoute et à vos côtés, que nous essayons d'œuvrer ensemble pour un territoire plus harmonieux et plus cohérent. Espérons que les clignotants qui sont en train de passer au vert ne soient plus des clignotants, mais des feux verts absolus. Ça nous permettra ensemble d'avoir de meilleurs moyens et au passage de vérifier que nous n'avions peut-être pas tort tout à fait de prendre ces mesures-là. J'ai bien entendu, vous avez évoqué la loi NOTRe, vous avez évoqué les schémas intercommunaux. Je sais que cela s'est fait dans certains départements assez facilement. Ils sont peu nombreux. Il y en a 14 tout de même où les élus sont allés encore plus loin que les schémas des préfets. Je sais que dans d'autres départements, ça a été plus difficile. Ce que je voudrais rappeler, c'est quand même que dans ces SDCI, c'est les élus qui ont le pouvoir, plus que la fois précédente. Et le préfet, lorsque vous avez voté à la majorité qualifiée, est tenu, parce que c'est un avis conforme, d'appliquer vos décisions. Sauf que dans tous les départements, et j'ai bien l'impression que ce beau département du Tarn n'échappe pas à la règle, les élus, pour des raisons que je ne veux pas évoquer ici, ne se sont que très rarement mis d'accord sur les amendements à apporter, et qu'in fine, c'est les préfets qui ont dû trancher. Mais l'organisation de la République est ainsi faite, c'est pas par hasard qu'il y a des préfets, parce qu'à un moment, il faut bien prendre les décisions. La procédure n'est pas finie, je vous rappelle qu'elle court jusqu'à la fin de l'année. En ce moment, les communes sont en train de voter. Si les votes sont négatifs, et qu'il y a une proposition d'amendement portée de manière consensuelle pour modifier les choses à tel ou tel endroit, le préfet réunira de nouveau une CDCI, et si cet amendement-là, que vous auriez enfin construit tous ensemble et non à l'inverse, est adopté à la majorité qualifiée, eh bien, il sera intégré dans le schéma. Nous avons voulu des intercommunalités plus importantes. Alors, c'est vrai, je le reconnais, je suis moi-même, encore aujourd'hui, président d'Interco. On n'avait pas eu trop le temps de se poser, il a fallu donc mettre de l'huile dans les rouages. Je disais au Congrès des maires que c'est ma volonté, en tout, avec les élus, dans le cadre des collectivités, de mettre de l'huile dans les rouages, mais je disais que j'ai constaté qu'il me fallait une grande citerne d'huile. Alors, je suis allé la chercher, et je suis en train, avec une très grosse burette, de mettre de l'huile dans les rouages partout où je peux. Néanmoins, la loi nôtre est la loi de la République, comme toute loi, elle doit s'appliquer. Nous sommes, nous, les premiers républicains, nous, les élus, nous devons les appliquer, mais vous avez des moyens, et encore, sur ces sujets-là. Quant au département, même si nous ne sommes pas ici au congrès des conseils départementaux, Monsieur le Président, dès mon arrivée, sujet que je connais bien, j'ai présidé 30 ans le Tarn-et-Garonne, il est vrai que les restes à charge sont devenus très lourds, et il est vrai que l'État, comme pour l'APA, n'a pas tenu tout à fait ses engagements concernant le RSA. Mais je voudrais, en deux mots, d'abord rappeler que le RSA, à l'origine, quand Michel Rocard l'a créé, il s'appelait le RMI. Et ça disait bien ce que ça voulait dire. C'était un revenu minimum d'insertion. Ça voulait dire qu'on aidait quelqu'un en difficulté pour le ramener vers le monde du travail. Aujourd'hui, le RSA, c'est devenu, pour trop de personnes, un mode commode de vie. Alors, de vie modeste, certes, mais de vie tout court. Et ça, ça n'est pas acceptable. Donc, dans les discussions que nous avons, et j'ai déjà rencontré 3 fois l'Association des départements de France, et je vais les revoir dès cette semaine, eh bien, j'insisterai pour qu'il y ait de nouveau les 20% obligatoires d'insertion qui soient pratiqués. Moi, je peux comprendre qu'il y a un certain nombre de gens, parce qu'handicapés, parce que trop fatigués, qui resteront toute leur vie au RSA. Mais ça doit être la minorité. Le reste, il faut revenir vers de l'insertion. Cette insertion qui était obligatoire à 20% et les préfets inscrivaient d'office, elle est tombée aujourd'hui au-dessous de 9%. Ça n'est tolérable ni pour les finances de nos départements, ni pour les opinions publiques qui rejettent, bien sûr, de telles organisations de société. Et ils ont bien raison. Et enfin, le dernier message que je voudrais vous faire passer, c'est qu'il y a un moment où il faudrait que les présidents de conseils départementaux au sein de leur association sachent ce qu'ils veulent. Parce que vous avez demandé la recentralisation, le Premier ministre a dit « Banco, c'est quand même 700 millions d'euros et c'est la raison pour laquelle, comme vous le soulignez, il n'y a pas eu de mesure annoncée au Congrès des maires, d'abord parce que c'était le Congrès des maires et pas des départements, par le président de la République, parce qu'on ne peut pas vouloir prendre d'un côté et prendre autant de l'autre. Les maires, eux, ils n'avaient pas à cotiser, ils ne bénéficiaient pas, pardon, de ce fonds de solidarité qui a déjà été créé, le fonds d'urgence, 50 millions, il sera de 200 millions cette année. Donc, on a dit banco, on recentralise. Sauf que dès qu'on a dit oui, donc ça m'a... Eh bien, vous avez dit non. Pas vous Thierry, pas toi Thierry, mais vous avez dit non. Pourquoi vous avez dit non? Mais je m'en doutais. Parce que ils l'ont demandé en pensant qu'on dirait non. Un manque de peau, on a dit oui. Ah, voilà. Et alors maintenant, ils sont bien embêtés. Donc, il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Il n'y a pas une majorité pour recentraliser. J'en comprends les raisons, d'ailleurs, puisque la solidarité est devenue le fondement de l'action du département. Mais il faudrait, à un moment, qu'il y ait quand même un bloc majoritaire qui se constitue pour savoir vers où nous allons. Autrement, nous irons de fond d'urgence en fond d'urgence, ou alors j'irai dans la direction parce que j'ai toujours pensé que ça finirait comme ça, nous ferons de l'expérimentation avec quelques départements, car je suis un fervent partisan, madame la vice-présidente de la région, de l'expérimentation, et je suis prêt à en faire avec les départements, avec les régions et aussi avec les métropoles. Pardon, j'ai été très bavard, mais c'est les sujets qui me passionnent, et puis on avait beaucoup évoqué à cette tribune. Je veux, en terminant, comme je l'ai fait en commençant, vous remercier de m'avoir convié, vous dire que j'ai confiance en vous toutes et vous tous. J'espère que vous avez aussi, au moins minimum, confiance en moi, car ensemble, nous sommes quand même ceux sur qui repose la République. Vous êtes au PJ, l'ordre public, et celles et ceux grâce auxquels la France, avec ses un peu moins de 36 000 communes, puisqu'il y a désormais quelques communes nouvelles, y compris dans le Tarn, et nous avons décidé de prolonger l'incitation jusqu'à la fin de l'année, grâce auxquelles la République est belle, la République est ce qu'elle est, c'est-à-dire fondée sur la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Merci.
Merci, Monsieur le Ministre, pour certaines précisions que vous avez apportées. C'est très bien. Je disais en aparté à Monsieur Thierry Carcenac, je disais au moins c'est pas la langue de bois. Vous l'avez peu employée et je vous en remercie. Ceci étant, donc, bien que le temps passe vite, il y a, je pense, des questions dans la salle. Monsieur, je cherche. Pascal Niel, vous amenez un micro, s'il vous plaît. Pascal, devant. Voilà. Vas-y, Pascal.
Oui, Monsieur le Ministre, donc je me présente, je suis Pascal Niel, président de l'intercommunalité qui couvre ce territoire, donc qui intègre Gaillac et Groyer. Donc c'est une intercommunalité de 50 000 habitants, sur lequel donc nous n'avions pas théoriquement d'obligation par rapport à la réforme et à l'obligation donc du seuil des 15 000 habitants. Mais c'est un territoire qui travaille depuis 20 ans avec deux autres intercommunalités sur plusieurs collaborations, dont entre autres le SCOT. Donc c'est en toute logique que Monsieur le Préfet a proposé la création d'une communauté de communes sur ces trois communautés de communes, ce qui fait que nous passons de 50 000 à 70 000 habitants, mais surtout de 29 à 63 communes. Alors, c'est un travail qui a demandé, vous avez tout à l'heure parlé de burettes d'huile, on sait ce que c'est, nous aussi, nous avons utilisé cet instrument pour arriver à faire passer cette logique, et c'est... en toute logique, communes, la grande majorité de ces communes va voter favorablement à la proposition de Monsieur le Préfet. Donc, dans le département, vous sembliez voir le verre à moitié vide. Celui-là est le verre à moitié plein. Donc, c'est une bonne chose. Mais par contre, nous qui sommes en train de le vivre au quotidien, on s'aperçoit qu'il y a quand même un décalage. C'est que de passer d'une communauté de communes de 29 à 63 communes, ça veut dire aussi qu'on intègre un territoire très rural avec une densité relativement faible et qui va nécessiter en matière de transfert de compétences une certaine souplesse. Alors j'aimerais que des consignes soient passées à l'ensemble des services, donc on en a parlé avec Monsieur le Préfet qui semble partager ce point de vue, mais une certaine souplesse quant à la mise en place des compétences sur le futur périmètre, de façon à ce que on intègre le fait que 63 communes et un territoire aussi vaste que le nôtre n'appréhendent pas les transferts de compétences avec la même rigueur que celle que l'on pouvait avoir sur des périmètres plus restreints, et ce d'autant plus que les inconnus qu'il y a sur la réforme de la DGF nous empêchent de faire des simulations précises sur les ressources de cette future intercommunalité. Donc on ne voudrait pas, pour des obligations administratives, faire des transferts de compétences à marche forcée. Je vous ai entendu parler du mot « sérénité ». On voudrait aussi avoir cette sérénité pour que éventuellement on puisse avoir des délais supplémentaires sur des transferts de compétences par rapport à ce que la loi prévoit, de façon à ce que tout se fasse en parfaite sérénité et qu'on ne regrette pas d'avoir fait des transferts de compétences sur lesquels on n'est pas les moyens d'assurer un service à la population à la hauteur de nos espérances. Merci.
Monsieur le Président, j'ai bien intégré tout cela. Nous avons déjà fait un certain assouplissement pour les abattements de taxes d'habitation, pour les PLUI, pour les versements de transport, et nous en ferons d'autres si nécessaire. Et les consignes que j'ai données au préfet, c'est de se montrer très souple, très compréhensif. Je répète, tout ça doit se faire dans la sérénité. Ce qui compte, c'est d'aller de l'avant. Et je sais que la tâche est immense, que de réunir parfois deux, trois, voire quatre intercommunalités. Donc les délais ont été donnés et nous le donnerons. Ce que je ne veux pas donner comme délai, c'est des délais qui remettrait à un an l'application des textes. J'ai eu une proposition de loi sénatoriale à la matière à laquelle je me suis opposé, même si elle a été adoptée, lorsqu'elle en sera à l'Assemblée nationale, parce que moi, je considère que quand quelque chose est difficile, de reculer l'échéance, ça ne fait que le complexifier encore. Quand c'est dur, il faut y aller avec détermination, avec courage, et régler les problèmes. Autrement, la situation, pardon l'expression, pourrit, et c'est pire qu'avant. Donc, les délais pour l'application et la mise en ordre d'un certain nombre de compétences, oui. Des délais d'un an pour reporter l'application des schémas à 2018, là, moi, ma réponse est non. Alors, après, le Parlement décidera. Hein. S'il le vote, ce sera le cas. Mais vous verrez que ça compliquera, parce qu'en d'autant, il y a des gens qui changeront d'avis.
Bien. Une question. Monsieur, là, tu as le micro ? C'est bon.
Monsieur le ministre, bonjour. Christian Patrice, élu de Saïs. Donc, je voudrais revenir un peu sur le volet fiscalité, et notamment sur la baisse de la DGF. Alors, dans sa globalité, dans le cadre des efforts de redressement des comptes publics, dont les collectivités ont été sollicitées, mais de façon différente et différenciée. On a pu constater que certaines communes ont vu leur dotation augmenter et d'autres diminuer de façon importante, voire drastique, allant au-delà des 20 à 25% des dotations. Alors, je vous ai entendu, vous avez précisé que cette DGF était totalement opaque, illisible, qu'elle était reportée, plus ou moins la réforme était reportée en 2018, mais je souhaiterais qu'en 2017, les communes qui ont subi des pertes importantes voient quand même leurs efforts pour le code de redressement des comptes de l'État, minorer, afin qu'elles puissent continuer à vivre. Parce que, bon, chaque commune a des charges de centralité importantes, et au demeurant, il va devenir compliqué de les assumer. Merci, monsieur.
Alors, je parle sous le contrôle de ma conseillère technique, mais il me semble qu'on avait mis un plafond, comme quoi ça ne pouvait pas aller au-delà de 15%, la réfaction.
Nous, la somme sur dépasse les 15%, est à 20% aujourd'hui de dotation en moins.
Je le regarderai bien naturellement. Sur le reste, moi, je vais vous répondre sur deux points. C'est d'abord que... Oui, bon. Elle m'envoie des textos, on va pas faire là. Puisque je parle de textos, monsieur le député Philippe Folliot, je viens de voir le tweet que tu as envoyé. T'es quand même gonflé. Tu parles de sinistrose et de je ne sais plus quoi. Tu n'as entendu qu'un discours à ton arrivée, c'est le mien. Et je ne crois pas avoir porté beaucoup de sinistrose ni dire que tout le monde est en colère. Donc il faut un million. Non, non, et tu n'étais pas là. Alors, voilà. Alors, moi, je le dis en direct, je ne fais pas de tweet. Donc, je reviens là-bas. Les mesures que je viens d'annoncer qui ne sont pas sinistres, et puis c'est des milliards, ça va quand même vous permettre de faire un certain nombre de choses avec l'aide de l'État. Ça, c'est la première des choses. Et la seconde, c'est que si vous avez un cas particulier dans cette commune, vous en parlez tout à l'heure avec ma conseillère technique qui est là. Je pense que... Levez-vous, Soraya. Voilà. Ça ne vous gênera pas de la rencontrer, je pense.
Non,
voilà.
Non, pas et, du tout, pas du tout.
Voilà. Et on verra le cas particulier.
Bien. Comme quoi nous sommes un pays de rugby, viril mais correct. Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture, là, s'il te plaît.
Merci, Président. Monsieur le Ministre, je crois que vous l'avez compris,
Vous êtes ici en plein centre du département du Tarn. Je crois que vous avez en face de vous des élus locaux. Je fais partie de ceux qui ne sont pas dans la salle, mais des élus locaux attachés à un monde rural, et vous en avez parlé, équilibré. Je crois que c'est un monde fait de villes petites, moyennes, de hameaux, de villages, de deux agglomérations, mais surtout de citoyens qui vivent tous les jours. Quand je suis ici pour représenter, et quand j'ai été élu président de la Chambre d'agriculture, donc pour représenter les premiers acteurs du territoire, qu'ils soient dans l'occupation du territoire, mais aussi dans le côté économique, je ne m'imaginais pas que les choses deviendraient aussi compliquées. Vous étiez ici en 89, c'est l'année où je me suis installé et où j'ai fait mon dossier d'installation. Je vois aujourd'hui les dossiers d'installation que l'on fait à la Chambre d'agriculture, et vous ne pouvez pas vous imaginer, monsieur le ministre, comment ces choses-là sont compliquées. Dossiers d'installation sont des services que l'on fait aux agriculteurs. Nous faisons aussi des formations. Nous sommes un des premiers départements français à faire de la formation agricole. Nous sommes aussi des gens qui travaillent, et vous le savez parce que nous avons eu un dossier commun qui est toujours en cours sur la création d'outils de travail. Je crois que qu'ils soient collectifs ou individuels, je crois que ces choses-là, on y travaille tous les jours. Et nous travaillons aussi, Sylvain Fernandez l'a dit tout à l'heure, avec les collectivités locales sur les documents d'urbanisme et sur le travail que font les collectivités locales sur le terrain. Je pense que le président Carcenac, à côté de vous, peut en témoigner sur un dossier très particulier. Je veux vous alerter, monsieur le ministre, sur une chose, c'est la complexité des démarches que l'on doit faire aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si elles sont le fruit de la réflexion. Je vais le dire, je l'avais mis entre parenthèses, mais je vais quand même le dire, ou de l'incompétence de certains hauts fonctionnaires à Paris. Je crois qu'aujourd'hui, nous vivons sur ce territoire, comme dans les territoires ruraux, une complexité de système qui fait que je pense que notre monde rural est en danger. Vous avez devant vous, ici, des élus locaux. Vous avez aussi un élu professionnel, certes, mais qui s'est engagé pour défendre l'économie et le territoire. Je pense que ces gens-là ne se réengageront pas si les complexités perdurent. Monsieur le ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne le voulez pas. Enfin, j'ai compris que votre but n'était pas de faire une loi qui est votre nom. J'ai compris qu'il était de mettre beaucoup d'huile dans les rouages. Je vous demande aujourd'hui de prendre l'initiative. Alors, je ne sais pas s'il faut noyer, et vous avez eu malheureusement l'occasion les derniers temps, les gens qui nous pondent des normes ou des lois trop complexes ou des règles trop complexes à appliquer. Mais je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, vous preniez les initiatives nécessaires pour que ce département qui est rural et cette ruralité existe demain. Merci, monsieur le ministre.
Très bien.
Mes initiatives, par nature, par principe, elles ne concernent pas que le temps, elles concernent la France entière. Mais, alors, les normes. Concernant les normes, j'ai instruction du président de la République et du Premier ministre de simplifier. On en a supprimé 18 lors du comité interministériel ruralité. J'ai rencontré Alain Lambert, ancien ministre du Budget, qui est le président de l'Observatoire, je crois. Je crois, il est le président, j'en suis sûr. Je cherche le nom, parce qu'il y a tous ces signes, on ne s'y retrouve pas. Le Conseil national des normes. Nous avons décidé de travailler ensemble. J'œuvre tant que je peux pour la simplification, qu'elle soit administrative. Au passage, ne soyez pas durs avec nos fonctionnaires, parce que, quand même, je vois que quand ils ne sont plus là, dès qu'on fait un service public, tout le monde verse des larmes. Alors, ça prouve quand même qu'ils ne font pas trop mal leur boulot. Alors, soyons solidaires à eux et soutenons-les. Au-delà, le problème des normes est un vrai problème. Donc, il faut simplifier, vous avez raison. On est allé beaucoup trop loin. Sauf que pour simplifier, il faut porter le projet jusqu'au bout. Et que ces normes, elles ne sont pas apparues comme ça parce qu'un jour un ministre, quelle que soit la majorité, a dit « Tiens, je vais faire une norme ». Elles répondent toujours à des demandes de lobbies de plus en plus puissants et de plus en plus incontestables face auxquelles c'est pas simple. Parce que moi, je vais vous dire ici ce que dit le président de la République. C'est que moi, je veux bien supprimer les normes et je m'y attelle. Mais que si chaque fois j'en supprime 4, on en met 6, c'est pas la peine. Or, dans ce beau pays de France, dès qu'on a la moindre difficulté, on répond par des normes. Et c'est effectivement une folie, je suis d'accord avec vous. Vous m'avez interrogé, alors là c'est local, sur le barrage de Sivens. N'ayons pas peur de dire les choses.
Non, mais attendez, vous l'avez remarqué, je ne tiens pas la langue de bois. Voilà, je suis un peu spécial dans ce monde-là. Donc, ce projet, je le connais bien, puisque c'est un projet qui lie le Tarn et le Tarn-et-Garonne, qui d'ailleurs, cher président Carcenac, profite presque plus au Tarn-et-Garonne qu'au Tarn. Moi, je suis... Pas les emmerdements, ça c'est vrai. Ça ne m'a pas échappé. Ça ne m'a pas échappé, mais c'est pour ça que... Moi, je veux dire que je suis solidaire du président Carcenac et de celles et ceux qui ont mené ces combats-là. Une de mes actions essentielles et fondamentales à la tête du département, ça a été de mener une politique de maîtrise de l'eau. Je l'ai initiée en 86 jusqu'en 95 quand je me suis arrêté, ou en 85 jusqu'en 95. Et du coup, le Tarn-et-Garonne est devenu le département qui a la SAU, la mieux irriguée des Midi-Pyrénées et la sixième de France. Et grâce à cela, les agriculteurs ont pu franchir toutes les années de calamités, de difficultés et autres. Il est indispensable d'avoir la maîtrise de l'eau, et il est donc indispensable que d'une manière ou d'une autre, même si je compatis au drame horrible qui s'est déroulé sur le site, quand il y a la mort de quelqu'un, en particulier un jeune homme, c'est un drame dont on ne peut pas se remettre. Et on se doit, bien entendu, d'être solidaire de sa famille, et dire que plus jamais ça. Mais il n'empêche qu'il faut que nous continuions à mener une politique de maîtrise de l'eau, que ce soit dans le Tarn ou dans le Tarn-et-Garonne, et moi je compte y engager, et encore davantage à partir du moment où je suis ministre de l'aménagement du territoire. C'est un élément structurant de l'aménagement du territoire que la maîtrise de l'eau.
Très bien. Je crois qu'il y a encore une question, monsieur le maire de Pigouzon. Je ne vois pas où il est. Attends, prends le micro parce que les gens n'entendent pas, s'il te plaît, Thierry.
Oui, Thierry Dufour, maire de la commune de Pigouzon. Nous allons dans quelques jours fusionner mon collègue de la Bastide de Dénat pour créer une commune nouvelle au 1er janvier 2017. Ma question aurait été pour monsieur le ministre sur la prolongation. Des mesures fiscales, mais je vous ai répondu avant de votre discours sur cette question. Donc, mais par contre, j'ai bien retenu que quelquefois, d'aller vite et de ne pas retarder permet de faire avancer plus rapidement les choses. Je suis entièrement d'accord avec vous.
Lorsqu'on a des choses difficiles dans la vie, mais pas que dans la vie publique, dans nos vies tout court, remettre à demain, ça n'a jamais été... De bonne politique, il faut avoir le courage d'affronter l'adversité, même quand c'est des choses très difficiles, je vous le confie. Concernant les communes nouvelles, l'air de rien, quand même, 1000 communes ont fusionné en 300. Et donc, on est passé en dessous de 36 000. Et je vois que dans le temps, vous avez aussi initié ce mouvement, c'est bien. J'espère que mon beau département de Tarn-et-Garonne suivra votre exemple, parce que chez moi, ils ne veulent pas en entendre parler. Si je veux au Congrès des maires raconter ça, ça va être terrible. Donc, je vous félicite. Merci.
Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, écoutez, monsieur le ministre, une fois de plus, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Vous remerciez, effectivement, je me répète, de ne pas avoir utilisé la langue de bois. C'est très bien. C'est ce qu'attendent les élus en règle générale. Et je souhaite que nous ayons, dans d'autres occasions, le plaisir d'échanger à nouveau. Merci à vous tous, et comme d'habitude, bien le pot de l'amitié vous est offert, et ceux qui souhaitent rester déjeuner, j'espère que vous êtes tous manifestés, qu'on n'ait pas de problèmes. Avant de partir, monsieur le ministre, je vais vous remettre... Tu l'amènes à Frédéric ? Comme le veut la tradition, un présent qui vous rappellera votre passage dans le Tarn.